Moi, ce que je veux, c'est ma cathédrale.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine à un phénomène du Moyen-Âge. Comment est venu le temps des cathédrales? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales et du patrimoine religieux. Dans le premier épisode, nous avons vu comment au début du XIe siècle, période de croissance économique et démographique, ce qu'on appelle encore la Gaule, se couvre alors d'un blanc manteau d'église et de cathédrale. On se met à construire frénétiquement.
Qu'est-ce qu'ils avaient donc à faire des cathédrales comme ça?
Ils avaient la foi. Pour eux, la religion, il n'y avait que ça qui comptait.
C'est au XIIe siècle que commence en France ce qu'on peut appeler la grande épopée des cathédrales. Cette période féconde qui, jusqu'au XIVe, XVe siècle, verra l'édification de pas moins de 80 cathédrales, passant du style roman au style gothique. Le premier de ces grands chantiers a lieu en Île-de-France. Il ne s'agit pas encore exactement d'une cathédrale, mais d'une église abbatiale, donc associée à une abbaye, en l'occurrence l'abbaye de Saint-Denis, aux portes de Paris, déjà prestigieuse parce qu'elle a été construite sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain où aurait été enterré le légendaire Saint-Denis. Prestigieuse aussi parce que l'abbaye de Saint-Denis, depuis le mérovingien Dagobert, abrite la nécropole des rois des Francs. C'est donc cette abbaye déjà chargée d'histoire, et très riche aussi, qu'au tout début du XIIe siècle, un abbé, novateur, ambitieux et qui avait beaucoup voyagé, l'abbé Sugère, décide de modifier et d'agrandir. D'abord, explique-t-il, parce qu'elle est abîmée, pleine de fissures, et puis, trop petite, elle ne peut plus recevoir la foule des pèlerins les jours de fête. Les femmes, je cite, écrasées dans la mêlée des hommes, poussaient des cris horribles et soulevées au-dessus de la tête des gens, finissaient haletantes dans le pré du monastère. Les frères qui présentaient les reliques, succombant à leur agitation, s'enfuirent bien des fois par les fenêtres avec les reliques. J'imagine des moines affolés, obligés pour éviter ces femmes de passer par les fenêtres avec leurs reliques dans les bras. Une vraie pagaille.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Pensez à l'œuvre de l'abbé Sugère. Deus lumen est. L'abbé Sugère avait bien ouvert la voie.
Au-delà de la taille du bâtiment, le projet de Sugère est d'inventer une architecture totalement inédite, au nom d'une esthétique née elle-même d'un principe théologique « Dieu est lumière ». Alors que l'abbaye existante, de style roman, est à ses yeux massive, basse, compacte et obscure, Sugère va faire sortir de terre une église qui, au contraire, monte vers le ciel, qui ne sera plus éclairée seulement par des cierges, mais par la lumière qui traverse les vitraux de couleur. À cette quête de hauteur, de légèreté et de lumière s'ajoute celle de la richesse et le scintillement que donnent l'or, l'émail, le cristal et les pierres précieuses, qui pour Sugère ont des vertus célestes, mystiques même. Il dépense d'ailleurs sans compter pour acheter des pierres précieuses, améthyste, saphir, rubis, émeraude, topaze. Pourtant, cette façon de voir ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, le moine Bernard de Clairvaux. Quand l'église resplendit sur ses murs et se revêt d'or, dit-il, elle n'a rien pour ses pauvres. On régale les yeux des riches aux dépens des miséreux. Les curieux trouvent de quoi s'amuser, mais pas les malheureux pour se sustenter. Mais Sugère n'entend pas suivre cette morale ascétique. Que chacun suive son opinion, écrit-il. Pour moi, je le déclare, ce qui m'a paru juste avant tout, c'est que tout ce qu'il y a de plus précieux doit servir d'abord à la célébration de la Sainte Eucharistie. Les travaux, débutés vers 1135, se font par étapes. D'abord la façade ouest, puis ce qu'on appelle le chevet, c'est-à-dire l'extrémité du chœur, tout au fond de l'église. Le 11 juin 1144, c'est en grande pompe que le chevet est consacré, en présence du roi Louis VII et de la reine Aliénor d'Aquitaine, accompagné des hauts dignitaires du royaume, des évêques et d'une foule innombrable. Tous, en entrant dans la nouvelle église, sont émerveillés par la hauteur des voûtes et des colonnes qui laissent librement entrer la lumière. Sugère peut alors écrire avec fierté « L'église étincelle, c'est moi, Sugère, qui ai dirigé les travaux ». Mathieu Lours, est-ce qu'on peut dire donc que c'est cet abbé Sugère, dans son abbaye de Saint-Denis, qui a introduit le premier, le gothique en France ?
Oui, c'est lui qui le premier conceptualise cet art, même si dans la décennie de naissance du gothique, les années 1130, on a en fait plusieurs monuments Il y a Saint-Denis, mais il y a aussi l'église Saint-Martin-des-Champs à Paris. Il y a aussi l'abbaye de Montmartre, parce qu'il y a aussi des femmes qui mettent en œuvre les premières architectures gothiques. Et on a l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui est pas loin derrière. Donc on voit qu'autour du pouvoir royal, on a besoin d'une nouvelle esthétique pour légitimer le pouvoir du roi.
Ouais, tout ça est autour de Paris en fait. Et pourquoi cette corrélation entre Île-de-France et art gothique ?
Alors, parce que partout dans le royaume de France, on a des arts romans très marqués autour de grandes régions historiques, autour de grands fiefs. La romande Bourgogne, la romande Normandie, d'Aquitaine, qui correspondent aussi à des grands duchés féodaux. Le roi de France, lui, dans le cœur de son domaine royal, à Paris, se légitime par des architectures anciennes, des églises carolingiennes, voire mérovingiennes. Et là, ce que lui donne l'abbé Sugère, c'est l'outil, on dirait idéologique aujourd'hui, même si le terme n'existe pas, conceptuel, pour avoir un art royal qui est fondé sur une évolution du roman, avec des emprunts à la romande Normandie, l'idée de portail un peu comme en Bourgogne, et puis tout ça au service d'une idée forte, c'est la lumière qui doit commander dans l'architecture, et toute la structure doit être au service de cette idée.
Est-ce qu'il a fait des voyages qui lui ont permis de découvrir peut-être des églises en Italie ou ailleurs ?
Oui, Sugère, c'est à Rome qu'il est allé. Et il a vu des basiliques paléochrétiennes du IVe siècle, rutilantes de mosaïques d'or. C'est là qu'il a été impressionné par l'idée de lumière. Et quand il revient, certes il fait réaliser une petite mosaïque à Saint-Denis, mais ce qu'il fait réaliser c'est des vitraux. Et pour lui, c'est la même chose que la mosaïque. Pour lui, les vitraux, ce sont des œuvres de lumière qui fonctionnent comme des mosaïques.
Mais à quoi ressemble justement ce style nouveau, art français, c'est ça qu'on l'appelle à l'époque ?
Alors, généralement on l'appelle art moderne, opus modernum. Et en Allemagne, au XIVe siècle, on emploie le terme d'art français, ce qui veut dire qu'on savait très bien d'où il venait. Et puis ensuite, au XVIe siècle, les Italiens, avec un certain snobisme de la Renaissance, disent que c'est l'art des barbares qui ont détruit l'Empire romain, l'art des Goths. Et puis au XIXe siècle, on va en faire un motif de fierté. Mais en fait, voilà, le terme à l'époque, c'est l'art moderne. Et c'est moderne parce qu'on va employer des voûtes sur croisées d'ogives, des voûtes qui ne pèsent pas lourd sur les murs comme les voûtes en berceau sur les arcs en plein cintre de l'architecture romane, mais qui reportent les forces aux quatre coins. On va élargir les fenêtres et puis on va mettre au point tout un système de contrebutement par l'extérieur, de murs boutants, puis d'arcs boutants qui permettent de retrouver la résistance malgré l'évidement des fenêtres.
C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à travailler les vitraux.
Les vitraux existaient des époques antérieures, on en a probablement à l'époque carolingienne, on en a c'est sûr à l'époque romane, mais à l'époque gothique, l'accroissement de la surface vitrée oblige à penser autrement le vitrail et à en faire un support d'iconographie. On n'a plus autant de place qu'avant pour réaliser des fresques, donc il faut bien que les images soient quelque part. Et cette peinture sur verre qui se développe, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle a cette fonction-là, elle a une fonction iconographique.
Est-ce qu'on peut dire que l'abbaye de Saint-Denis est un mix de roman et de gothique ?
C'est déjà du gothique, mais le gothique se souvient d'où il vient. C'est-à-dire que la voûte d'ogive, elle existe depuis le XIe siècle en Normandie. On n'a pas inventé l'ogive pour le gothique. L'arc brisé, l'arc en ogive, il existe déjà en Bourgogne et en Provence depuis une centaine d'années. Mais là, on va croiser les deux de manière à alléger la structure, chose qu'on ne faisait pas dans les autres lieux où on les employait déjà. C'est en quelque sorte reprendre dans un esprit nouveau, avec des techniques nouvelles, et on aimerait tellement avoir le nom de l'architecte, parce que Sugère ne nous a laissé subsister que le sien.
Oui, il est très fier de son œuvre. C'est amusant, il raconte, Sugère, justement, que les reliques qui étaient gardées au fond, dans la crypte de Saint-Denis, dans l'obscurité, donc dans une autre atmosphère aussi, un peu brumeuse comme ça, qui devait être assez belle d'ailleurs, elles sont remontées de la crypte, donc du sous-sol, pour être déposées au rez-de-chaussée, dans le cœur. Il y a l'idée qu'il faut montrer les choses aux pèlerins.
Oui. Exactement, on prend une partie du corps de Saint-Denis et de ses compagnons rustiques et élotaires, et on va créer un plateau surélevé dans le nouveau cœur. Et de partout dans l'église, qui était encore la vieille église carolingienne à part le cœur, on voit très en haut, comme ça, l'autel des reliques, et autour de lui, la couronne des vitraux du déambulatoire. C'est l'idée d'une couronne de lumière qui vient prolonger la symbolique de la lumière des cierges. Donc on a les reliques en position d'intercession, parce que c'est ça que les catholiques viennent chercher dans le culte des saints. Le saint est quelque sorte un avocat qui va porter les prières en les montant vers le ciel. Et donc on a la célébration de la messe visuellement sur l'autel principal, derrière l'autel des reliques, et ensuite tout le cœur avec ce dispositif lumineux, cette tour de lumière que constitue le cœur.
Oui, donc il y a des lumières qui arrivent des différents côtés.
Exactement.
Du fond et de la façade.
C'est parfaitement lié avec la lumière du soleil. Le matin, le soleil se lève à l'est. Le chevet de l'église est tourné vers l'est, donc pendant la grand-messe, le prêtre tourné vers l'est, lève l'hostie vers l'est dans cette lumière, et lors de la prière du soir, qu'on appelle les vêpres, la lumière arrive par la rosace de la façade ouest, lumière tamisée. C'est la première fois qu'on a une rosace sur une façade d'ailleurs.
Sugère meurt en 1151 sans avoir terminé son abbaye. Merci Mathieu Lourse. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cet art gothique, initié par Sugère à Saint-Denis et dans la région parisienne, va se répandre dans tout le nord du royaume franc, avec maintenant de véritables cathédrales.